Bonjour, mesdames, messieurs. Deux univers coexistent, l'un que nos organes sensoriels nous permettent de percevoir et l'autre invisible, y compris par les appareils les plus élaborés. Il est clair que ce que nous est perceptible ne représente qu'une infime partie de l'existant et que ce qui concerne les quelques éléments prétendument réels, nous devions admettre que nos impressions subjectives ne s'accordent pas à la réalité que l'on considère comme objectif. Le problème réside dans notre propre perception, c'est-à-dire notre faculté à distinguer l'image dite réelle. La clarté et l'obscurité n'étant pas des propriétés de l'univers, mais des sensations visuelles, sans le regard que nous portons sur lui, le cosmos existerait-il ? La lumière, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques, percute la rétine, produisant des images différentes chez les animaux qui captent d'autres fréquences. À partir de la rétine, les ondes s'acheminent vers le cerveau et du fait que le passage de la rétine au cerveau demeure un phénomène non élucidité, le mystère perdure quant à la façon dont les images se forment. Par ailleurs, nous savons que notre œil ne réagit qu'à une infime partie des innombrables ondes électromagnétiques et différentes longueurs qui nous entourent. Une fois ces ondes captées, notre cerveau les traduit en impressions visuelles, en ombre et en lumière. Ni clair ni sombre, l'espace interstellaire est ainsi perçu par notre cerveau, car de fait, ce que nous voyons n'est qu'un attribut réel du monde extérieur. Ce qui signifierait que nos organes sensoriels ne reproduisent pas le monde tel qu'il est, ils ne font que l'interpréter. Cela incite certains chercheurs à considérer que le monde extérieur, objectivement, n'existe pas et que ce que nous percevons n'est qu'une invention de notre cerveau. Je me souviens de ma surprise, de ma perplexité lorsque j'entendis pour la première fois évoquer l'hypothèse selon laquelle il est impossible de faire la preuve d'une réalité extra-subjective ni de son contraire d'ailleurs. En substance, la réalité n'existerait donc qu'en rêve ou ne serait que irréelle. De ce fait, il ne nous est pas possible de percevoir l'existence d'une réalité hors de nos perceptions subjectives. Avec le croire, nous touchons à la théologie et à l'au-delà. Un au-delà dont nous ne pouvons prouver l'existence au moyen de critères objectifs. Après avoir constaté que l'ici-bas est intangible en soi, l'au-delà ne peut être plus paradoxal que l'ici-bas, que nous nommons monde réel. Je vous ai parlé précédemment du fait que le monde réel n'existait pas selon moi, si ce n'est à travers l'œuvre d'art ou la poésie qui se distingue catégoriquement de la vie. Il ne me reste donc qu'à laisser derrière moi ce monde que je ne puis même pas percevoir comme une ombre, à me tourner vers l'au-delà. Découvrirai-je un autre type de solipsisme, un autre genre de vertige ? Quoi qu'il en soit, on est pris de vertige dans un cas comme dans l'autre. La science n'est certes pas la condition préalable à la pratique artistique, mais elle me permet de l'illustrer. Nous avons déjà évoqué la recherche fondamentale en physique, en astronomie, en histoire. Aussi aimerais-je aujourd'hui vous parler de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution affirme que les éléments dans leur ensemble trouvent leur origine dans un petit nucléus, que les espèces vivantes n'ont pas été créées les unes après les autres, mais sont apparues à la suite d'évolutions allant de l'organisme monocellulaire aux bactéries, puis aux mammifères qui se sont développés jusqu'à nous. Je me garderai ici d'affirmer que nous sommes la quintessence de la création, car je suis personnellement persuadé qu'une autre espèce que la nôtre, ayant atteint un niveau de développement supérieur, pourrait évoluer quelque part dans le cosmos. De même que dans l'évolution, la naissance d'une œuvre d'art, la création de nouveaux tableaux dépendent de l'heureuse coïncidence d'un nombre infini de paramètres. Alors que, pour qu'apparaisse une nouvelle espèce, trois conditions préalables sont requises : le hasard, les variations et la sélection. Dans un premier temps, tout est possible. Le hasard, tout comme le jeu de la génétique, qui, par diverses mutations, génère un nombre infini de résultats qui ne sont dans un premier temps que des potentialités. La sélection décidera ensuite laquelle des variantes s'imposera répondant aux conditions de la survie. Seul un petit nombre subsistera. Certaines espèces qui avaient survécu disparaîtront tout à coup du fait de leur incapacité à s'imposer ou parce qu'elles ont anéanti par une catastrophe naturelle de l'ordre de la chute d'une météorite, d'un changement climatique, etc. En me plongeant dans la théorie de l'évolution de Darwin et de la sélection, j'ai constaté qu'elle illustrait précisément ce qui produit lors de la naissance d'un tableau. Ayant pour but de créer une œuvre, le peintre trouve face à une toile blanche sur laquelle le vide ne doit pas subsister. Le blanc, la page non écrite, la toile appelle à quelque chose d'autre. Le rectangle et ses limites ne lui conviennent pas puisqu'il n'exprime qu'un détail un détail et non la profusion. Il ne correspond pas à son désir d'infini, de totalité, ce qui place l'artiste dans une situation d'attente. Jusqu'à ce qu'une sorte de choc ait lieu, provoqué par un événement imprévu, une atmosphère, un poème, que sais-je. Observons les analogies entre l'évolution et l'art. D'abord, les variations. Une chose vient à l'esprit qui vous engage à faire. Une chose qui, de la vie de l'artiste, est la traduction d'un choc d'une manière ou d'une autre. Comment alors les premiers tâtonnements, le manque d'assurance, le choix des matériaux mis à sa disposition, les couleurs, les substances, les objets, les procédés, afin que l'action advienne. Après, c'est le hasard. Le hasard fait que l'on dispose de ceci ou de cela en fonction du lieu où l'on se trouve et du moment. Ce « où » ne relève pas uniquement d'une donnée spatiale, il peut avoir également une signification temporelle, c'est-à-dire révéler un certain moment, celui où l'on se trouve alors dans la vie personnelle ou au regard de l'histoire de l'art. N'oublions pas que l'artiste joue dans les carrières de l'histoire, là où plusieurs gènes se rencontrent, communiquent, s'unissent ou s'excluent pour former de nouvelles combinaisons aux variations infinies. Il ne s'agit pas de parthénogenèse, mais de rencontres dont les combinaisons les plus contradictoires s'avèrent être les plus productives. Après, c'est la sélection. La sélection arrive au moment le plus difficile, le plus pénible, celui où il faut choisir, écarter, sélectionner. un grand nombre de choses passent alors à la trappe. Les ébauches les plus prometteuses sont parfois abandonnées et souvent, une fois le choix opéré, on déplore dans l'instant ce qui a été perdu. On peut baisser un peu la lumière ? Vous voyez ? On peut baisser un peu la lumière ? Ah, voilà. Ça, c'est Lydia Delektorskaya, muse et modèle de Matisse, était entre autres chargée d'effacer à la térébenthine les détails du tableau que l'artiste souhaitait supprimer, les repentir en quelque sorte. Nous la voyons sur cette photo accomplir sa tâche. En matière d'évolution, le processus sont apparemment plus simples. Seul survit celui qui est capable de s'imposer, de s'adapter aux modifications, aux conditions environnementales ou de se maintenir dans la compétition contre d'autres espèces. Mais qu'en est-il du tableau ? Que condamne-t-on alors de son élaboration ? À quoi doit-on renoncer ? D'abord, à ce que l'on a déjà fait, à ce qui pourrait s'apparenter à une redite. Puis, enfin, à ce qui échappe à l'idée directrice. Lors de l'élaboration d'un tableau, nombre d'idées se présentent, dont il faut éliminer certaines pour ne conserver que la plus forte, la plus inédite. Mais encore faut-il savoir la distinguer. C'est dans cette phase de travail artistique que l'on observe certaines analogies avec la théorie de l'évolution. L'artiste est à ce moment-là comme un gène qui communique avec d'autres gènes. Il communique également avec d'autres artistes de diverses époques et de diverses cultures artistiques. Il parcourt l'histoire. Et avec un peu de chance, il peut créer une œuvre inédite, du jamais vu, tout en étant conscient qu'il subsiste peu de choses qui n'aient déjà été faites en matière d'art, il arrive que l'on puisse un jour réaliser une œuvre inouïe. Mais revenons au thème de l'évolution sans perdre de vue son analogie avec l'évolution d'un tableau. Notre conception du monde effleure la réalité selon certaines théories évolutionnistes. Prenons l'exemple du coq, dont on excite une zone précise du cerveau au moyen d'une électrode afin qu'il adopte une attitude défensive. Il s'imagine alors être en présence d'un ennemi invisible, un ennemi de fait qui lui a été implanté. Il existe donc un programme inné dans le cerveau du coq au programme qui était déjà présent dans l'œuf fécondé d'où sortira le poussin. À l'instar du coq, l'homme possède des connaissances innées qui l'accompagnent dès sa naissance et ne sont en aucun cas le fruit de son expérience propre. Chaque adaptation illustre une des caractéristiques environnementale à laquelle succède une autre adaptation participant de la perception du monde qui nous entoure. Ainsi, selon Konrad Lorenz, les ailes de l'oiseau sont l'illustration de l'air, tant comme les nageoires du poisson, celles de l'eau. Car la vie en soi n'est qu'un processus d'acquisition de connaissances. Mais comment se fait-il que le coq possède une connaissance innée du monde réel ? Pour la raison simple que le processus d'apprentissage n'a pas été accompli par un seul animal, mais par son espèce au cours de l'évolution. On assiste là à l'adaptation génétique à l'ennemi. Et l'on est en mesure de se demander pour quelles raisons les formes de connaissances que nous possédons, a priori, dès notre naissance, sont ajustés au monde réel. Toutefois, chaque adaptation illustre une partie du monde réel. En revanche, l'art et son évolution dépassent le particulier. L'évolution est irréversible. Elle ne peut revenir en arrière, au contraire de l'art. C'est pour cette raison qu'en se développant, l'art peut régresser, opérer des retours en arrière vers d'autres périodes de son évolution en s'inspirant, par exemple, des peintres rupestres ou en s'intéressant aux arts premiers, comme l'ont fait les cubistes. Dans le même ordre d'idées, la perspective inventée à la Renaissance a depuis lors été souvent délaissée par la plupart des artistes. L'art passe son temps en aller et retour, à gravir et descendre l'échelle de Jacob de l'évolution. Et quand la chance lui sourit, il lui arrive alors d'atteindre des abîmes insondables. Le comportement des animaux face à leur environnement relève du réflexe. Des images non figuratives sont inscrites en eux et suffisent à leur existence. Cet état de fait fut constaté lors d'une expérience visant à étudier le comportement d'un rouge-gorge qui ne réagissait pas à la copie conforme de la femelle pour peu qu'il manque à celle-ci une petite touche de rouge, alors qu'il réagissait à une simple touffe de plumes rouges. Le papillon tabac de l'Espagne, par exemple, réagit à un cylindre strié de rayures claires et sombres tournant rapidement sur lui-même parce que ce dispositif est la représentation abstraite du vol rapide de la femelle. Les animaux sont parfaitement informés sur leur environnement et c'est ce qui leur permet de survivre. Les hommes, quant à eux, se situent à un tout autre niveau de perception. Le méta-niveau des papillons est supérieur à celui d'une tique, car les tiques n'ont besoin de reconnaître que deux choses, les odeurs et les os de température. Elles fondent sur les mammifères dès qu'elles reçoivent ces deux informations, résumant ainsi leur univers à deux perceptions. Le coq pourrait se sentir bien supérieur à la tique et nous ne saurions lequel du coq ou de la tique est fondamentalement supérieur. Le coq pourrait se sentir bien supérieur à la tique et nous ne saurions lequel du coq ou de la tique est fondamentalement supérieur. En effet, l'homme n'est pas conscient de la prépondérance du coq sur la tique. L'adaptation nécessaire à la survie n'est donc pas encore l'illustration du monde réel. La survie et la connaissance répondent de ce fait à deux phénomènes très distincts. Notre niveau, selon duquel nous observons les animaux, n'est pas le niveau ultime. Et par conséquent, il n'est absolument pas déterminant. Pour quelle raison, en effet, l'homme devrait-il être l'ultime étape de l'évolution ? Pour quelle mystérieuse raison l'univers, après une évolution d'environ de 14 milliards d'années, devrait-il être parvenu à son terme ? L'écart entre le comportement d'une tique et notre cerveau nous semble vertigineux. Cependant, tout comme l'on peut entrevoir l'univers jusqu'à des milliers d'années-lumière à l'aide des télescopes les plus performants, et tout comme l'on peut imaginer d'autres mondes par-delà les horizons de l'infini, nous sommes en mesure d'appréhender une conscience bien plus développée que la nôtre, telle que celle du niveau de développement d'une tique en regard de celle de l'homme. Je suis persuadé que la première utilité du cerveau n'est pas de découvrir le monde, mais d'en favoriser la survie. Si l'on songe à tout cela, les représentations les plus folles, telles que celles de la Vierge enfantant, de la Trinité, ou encore les miracles, nous semblent être plus réels que certains faits scientifiquement avérés. Car enfin, au stade actuel, nous sommes dans l'impossibilité d'imaginer une quatrième dimension, nous pouvons seulement la calculer. Les règles fondant les sciences aujourd'hui seront certainement un jour abolies et remplacées par d'autres connaissances, à moins qu'elles ne restent valables sous certaines conditions. Malgré cela, la croyance en la virginité de Marie perdurera aussi longtemps que l'on aura envie d'y croire. Il existe là un point de rencontre avec l'art. J'ai bien dit un point de rencontre et non pas un niveau d'égalité. Un jour, lors d'une interview donnée à Salzbourg à l'occasion de l'exposition Maria durch ein Dornwald ging, c'est en français « Quand Marie traversa la forêt d'épines », j'ai évoqué ce dogme et j'ai dit en substance que la triple virginité de Marie, alors vierge au moment de l'Annonciation, vierge pendant la grossesse et toujours vierge après la naissance, représentait un phénomène aussi fantastique que l'invention du dadaïsme. L'évêque de Salzbourg s'en offusqua. Il n'avait pas perçu qu'en aucun cas il ne s'agissait pour moi de blasphème, mais que je voulais simplement démontrer par cet exemple la supériorité de l'art quand il entre en contact avec la religion, de même que sa supériorité sur la science. Supériorité n'est pas le terme adéquat. Il vaudrait mieux parler ici de son métaniveau qui lui permet de rejoindre de nouveau la théorie de l'évolution. L'art n'est pas une superstition. On a cru pouvoir affirmer que tout ce qui n'était pas vérifiable n'était que pure superstition. De même, quand ce qui concerne certaines apparitions dont on a cru fournir une explication scientifique alors qu'elles relevaient de la simple superstition et ne servaient qu'à reléguer la mythologie précisément dans le domaine de la superstition. Au début du XIXe siècle, Napoléon convoqua l'astronome Laplace afin qu'il lui explique les nouvelles théories en cours sur la formation du système solaire. À la fin de l'exposé du savant, l'empereur lui demanda pourquoi il n'avait pas intégré Dieu dans son raisonnement. Laplace lui répondit alors que cette hypothèse lui semblait bien superflue. Nous apprécierons ce qui est important si nous voulons quelque peu approcher l'art, que la science ne soit pas conforme à la vérité, qui relève le plus souvent de l'habitude. Nos convictions nous étant apprises par l'évolution, elles ne nous servent pas à la recherche de la vérité, mais nous confortent dans notre bien-être biologique. Je vais vous raconter une anecdote. Il fut intimé l'ordre à un activiste de la fraction armée rouge comparaissant au tribunal de se lever devant la cour. Celui-ci eut alors cette magnifique réplique « Si cela peut servir la vérité ». Par cette réplique, il braquait les projecteurs sur le fait que le tribunal connaîtrait la vérité si le prévenu comparaissait debout. Ce qui revenait à reprocher au tribunal, l'institution qui incarne la recherche de la vérité, s'il en est, l'irrationalité de ses actes. Cette petite phrase laissait entendre au tribunal que, selon lui, la vérité était dépendante du fait que l'on comparaisse assis ou debout. Cette remarque, teintée d'ironie, ébranlait en quelque sorte les fondements de la justice. Car si un jugement, pour ne pas être partial, va dépendre du seul fait que le prévenu soit assis ou debout, sa validité est loin d'être garantie. De fait, au début de ce que l'on appela les émeutes d'étudiants, les actions des meneurs révélaient d'étonnantes qualités rhétoriques et artistiques. Qu'un accusé se présente debout ou assis devant le tribunal est un sujet récurrent. Par exemple, dans le film Miral de mon ami Julian Schnabel, une terroriste palestinienne est par deux fois condamnée à la prison à perpétuité. Et quand, au moment du verdict, elle refuse de se lever, on lui ajoute une autre condamnation à perpétuité. Ce qui fait non plus deux, mais trois condamnations à perpétuité. La preuve est ainsi faite que dans certains pays, rester assis au moment du rendu du jugement peut conduire à la perpétuité. Le philosophe Wittgenstein pensait qu'il est nécessaire de taire ce qu'on ne peut pas exprimer clairement. Quant à Werner Heisenberg, il a qualifié d'absurde la nécessité de diviser le monde entre ce qui peut être dit et ce qui doit être tu. Si l'on suit le raisonnement de Wittgenstein, il sera difficile de transmettre la théorie des quanta, puisqu'on a besoin pour se faire de s'exprimer en images et en métaphores. Pour ma part, à l'école, je n'étais pas très bien en mathématiques, ni en algèbre, ni en physique, mais je réussissais malgré tout à saisir ce qu'elle avait d'artistique par-delà l'obscurité des traités. Mon univers quotidien est pour une grande part moins réaliste que celui de l'art. Mon activité artistique est profondément régie par la recherche, l'obsession de la précision et de la perfection provisoire qui va à l'encontre des vérités positivistes. Dire que la mer murmure ou qu'un arbre murmure, il y a de Ossip Mandelstam le titre « Le murmure du temps »,« Das Rauschen der Zeit », peut être considéré comme une relique animiste où l'on croyait que les choses agissaient par elles-mêmes, où la conception du monde n'était pas aussi anthropocentrique, aussi rationnelle que de nos jours. Comme il m'arrive de le dire parfois, je ne pense pas que l'homme soit absolument le centre de la création. Lorsque j'appelle la nature à l'aide, quand j'admets que le matériel peut être porteur d'idées, cela revient à admettre que le poète se laisse guider par le langage, langage qui ne sert pas uniquement à décrire, mais qui détermine également notre pensée. Lorsque nous disons que la mer murmure, nous conférons aux choses un centre qui leur est propre. Avec cette apparente régression vers l'animisme, nous acceptons, nous affirmons même qu'il existe d'autres centres. Nous faisons abstraction de notre identité, non seulement de notre identité personnelle, mais aussi de notre identité humaine, nous qui sommes la quintessence de la création. Nous nous effaçons, ou plus précisément, nous donnons l'impression d'être partie intégrante d'un tout invisible qui sait et advient partout. L'artiste n'est plus alors un génie, mais un être à l'écoute, y compris même ce qui peut lui apparaître incompréhensible. Il est celui qui s'expose, celui qui se défie de tout, qui s'abîme et qui se perd et qui s'est perdu sans jamais l'être vivant, vraiment. Jadis, on concevait la création à partir du néant. Le monde existait et se maintient tel qu'il avait été créé. Puis Dieu s'est retranché en abandonnant le monde à lui-même, si ce n'est au diable. Alors nous avons pris conscience que le monde s'était développé en avançant au moyen d'interactions produites grâce aux lois et au hasard des mutations. Désormais, l'artiste ne se conçoit plus comme étant l'aboutissement de cette évolution. Il se déplace sur l'échelle de l'évolution, tel l'ange sur l'échelle de Jacob. Il le fait conscient que la science et le progrès nous ont démontré que notre vision du monde n'est que pure hypothèse. Que chaque nouveau pas vers la connaissance ne permet pas de connaître le monde en soi. Enfin, que la vérité nous est inaccessible. De ce fait, ce que la science ne saurait établir au moyen de la logique, l'art et la mythologie qui régnaient dès les débuts se sont essayés à l'exprimer. Par exemple, l'histoire du buisson ardent ne m'est jamais sortie de l'esprit depuis que je l'ai entendue pour la première fois dans mon enfance. L'expression « je suis ce que je suis » indique qu'il est impossible de saisir Dieu dans le monde réel. Selon le théologien Dietrich Bonhoeffer, un Dieu qui est, n'est pas. Nous sommes ici très proches de l'art. Lors de la leçon inaugurale, nous avons vu à quel point il était malaise de parler d'art, qu'il se dérobe à nous dès que nous voulons nous en emparer. Vous vous souvenez, je pense, de la difficulté que j'ai éprouvée à en parler du fait des définitions contradictoires qui les régissent, du fait que, quoi que l'on fasse, il est toujours là. Comme dans la fable de lièvre et du hérisson, on s'efforce de l'approcher, de le dépasser, mais en vain, il est toujours présent. L'art s'autogère de la même façon que le fait l'évolution. Il est l'étrange composante des lois et du hasard. Il arrive que l'artiste parvienne à se surprendre. Il lui arrive aussi d'être mu par de profondes motivations et qu'il peine malgré tout à créer. Il se peut également qu'il soit l'objet d'une mutation, car nous l'avons vu, un art qui est, n'est pas. Je m'efforcerai de vous en donner une illustration concrète lorsque nous visiterons mes ateliers à Barjac. J'y ai construit plusieurs bâtiments, œuvres d'art, que j'ai reliés entre eux par des tunnels souterrains et des passerelles à l'air libre. L'idée initiale étant que l'on oublie ce que s'y passe dans les intervalles, comme nous le verrons lors du cours consacré au « La vie m'a destiné » de Victor Hugo. C'est la prochaine fois. Les œuvres qui semblent sortir ainsi du sol transcendent le domaine du matériel de l'ici-bas afin de créer un espace vide qui permette à la création de se développer. Elles expriment ma tentative d'actualisation du mystère qui relie notre monde à l'au-delà, une recherche de la réalité indicible. La question de l'évolution nous a fait comprendre que l'interaction entre l'ici-bas et l'au-delà n'a pas eu lieu une fois pour toutes, lors de la création du monde dans les abysses de l'histoire, mais qu'au contraire, la transcendance ne cesse d'opérer du fait de la dialectique existante de la loi et du hasard. Or, ce même phénomène, nous l'avons vu, se produit parfois dans l'atelier de l'artiste. La quatrième dimension, l'idée de matière où les particules élémentaires de l'atome deviennent caduques, ainsi que l'ensemble des abstractions mathématiques nous démontrent que la frontière qui délimite cet espace infiniment plus vaste de l'univers est certes absolue, mais perméable aux actes de l'artiste. Transcendance qui se distingue de celle des théologiens, pour lesquels la transcendance se situe hors du monde. Nous savons que l'évolution est le passage d'un état à l'autre, passage qui a couvert quelques 4 milliards d'années. Nous allons évoquer à présent un passage d'une durée plus brève, celui de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans les deux cas, il ne s'agit pas pour moi de les comparer, mais de tenter de décrire la fluidité qui caractérise le passage. Je vais tenter de relier l'histoire des événements historiques qui se situèrent dans la région du croissant fertile à l'œuvre d'art à partir du passage de l'Ancien au Nouveau Testament pour aboutir au livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. L'Ancien Testament prend place dans les pays du croissant fertile, une région qui n'a jamais connu la paix, ni hier ni aujourd'hui, et qui continue d'être troublée. Il se déroule entre l'Égypte et le golfe Persique. Écoutons la parole des prophètes Isaïe et Jérémie. En ce temps, les 17e et 16e siècles avant Jésus-Christ, où le peuple élu connaissait la déroute, était malmené par les grandes puissances du croissant fertile, l'Égypte et la Mésopotamie, où Dieu semblait être un Dieu vengeur, terrible, exterminateur, arbitraire et d'une inexplicable cruauté. Les plaintes, les accusations de Job à l'encontre du divin résonnèrent alors dans les trois religions issues d'Abraham. Les différences sont grandes entre l'histoire reconstituée par les archéologues et celle que nous livre l'Ancien Testament. Ne serait-ce qu'à travers les villes conquises par David et qui, pour la plupart, n'existeraient plus, avaient déjà disparu ou, comme Jéricho, n'étaient pas encore nés. Or, cet espace intermédiaire entre l'histoire et sa narration, l'œuvre d'art est particulièrement intéressant. Et il nous faut alors envisager les décombres de l'histoire non pas comme une fin, mais comme un commencement. L'œuvre d'art elle-même est un commencement, un saut, une avancée, même si elle est voilée ou que tout ce qui advient a déjà été franchi. Le commencement dissimule la fin qu'il recèle en lui. Répondant à un étrange métabolisme, l'Ancien Testament est régi par ses propres lois formelles qui semblent en ranger la substance de la vérité historique. Il est ici question de l'espace transcendantal entre les deux, à savoir l'Ancien Testament et la véritable histoire. On pourrait démonter la ville de Jéricho, pierre à pierre, déceler les mouvements et les traces d'un tremblement de terre qui permettra de la localiser au moment de sa chute, mais jamais on ne nous saurait restituer la musique, la sonorité de ses trompettes. Or, c'est bien la musique, la poésie qui accompagnèrent sa chute dont on perçoit les répercussions encore aujourd'hui en Palestine. Cela démontre, si c'était encore nécessaire, que la mythologie ne peut être comprise comme un simple mode d'emploi. Il nous faudrait davantage de temps que nous n'en disposons pour développer, par exemple, le thème des désastres que peuvent provoquer les mythologies mal interprétées ou leur mauvaise utilisation au même titre que celle de l'art. Compris sous l'angle de l'œuvre d'art, l'Ancien Testament contient des réflexions sur le rôle de l'artiste, puisqu'il traite de prophètes qui, au même titre que les artistes, se trouvent à l'intersection de l'absolu et du factuel. Chez Jérémie et Isaïe, les perspectives d'un commencement prometteur existent toujours. Messager du divin, il traverse les frontières en tous sens, d'une rive à l'autre, au contact des hommes et du peuple. Jérémie symbolise l'artiste dont l'œuvre fut inspirée par un choc produit par les paroles de Dieu qui lui brûle la bouche et dont il ne comprend pas le sens dans un premier temps. Paroles vagues et floues qui, au risque de devenir l'illustration du choc ressenti, ne sont comprises qu'après avoir été prononcées. Paroles qu'il compare alors avec l'existant et qui lui font percevoir l'incommensurable distance qui le sépare de ses semblables, distances infranchissables, lui semble-t-il, du simple fait qu'on ne peut le comprendre. Le passage semble impossible, le doute s'empare de lui. Souvent, il se cache, trouve la charge trop lourde et fuyant Dieu qu'il accuse de trahison. Le prophète, l'artiste, est pris entre deux extrêmes. D'un côté, il est puissant par l'autorité que Dieu lui confère, lui permettant de tancer les rois qui les craignent, car n'est-il pas l'unique intermédiaire entre l'indicible et le monde ? Et l'instant d'après, il peut être jeté dans la fosse à Poirin et ne plus exister au regard des hommes et à ses propres yeux. Je cite de mémoire le journal de Paul Valéry qui, à certains moments, ne s'estimait plus, alors qu'à d'autres moments, il pensait être ce qu'il est vraiment ou beaucoup plus encore. L'artiste est par essence un être doté d'un avenir qu'il porte en lui dès sa naissance. L'artiste est le réceptacle vide dans lequel Dieu dépose sa parole. L'artiste qui parfois attend toute sa vie, toute une vie, la parole divine, et souvent ne la reçoit pas. Tel fut le cas de K. dans le château de Kafka, dont l'attente fut vaine. Phénomène plus radical encore chez Vladimir et Estragon, en attendant Godot, qui ne font que jouer l'attente. De même que la parole, le tableau se contredit, il est aporri, il se nourrit du hasard, signifie toute chose, mais n'autorise rien. C'est lors du passage vers le monothéisme que la relation de l'homme avec le Dieu unique se complique, du fait qu'il est plus délicat à Dieu d'être simultanément celui de l'ordre et du chaos, de justifier qu'il laisse agir le mal sur le monde. Entre ces deux tendances de l'héritage sémite, oscillant entre création et destruction, il n'y eut aucun conflit dans un premier temps. Quand bien même le châtiment faisait intervenir les forces de la nature, on invoquait celles-ci pour justifier les destructions comme une nécessité incontournable. Dieu est alors un Dieu cosmique dont la toute-puissance rend l'Israël invincible. Le Nouveau Testament, qui contient toutes les interprétations, le dispute sur la juste exégèse, et cela très tôt, dès la représentation de Jésus au Temple, à l'âge de 12 ans. S'en suivra un revirement radical à la suite du sermon sur la montagne où Jésus proclama « Aimez vos ennemis ». Une parole inouïe, jamais entendue jusqu'alors, pour preuve les persécutions génocides des Amalékites sur deux voire trois générations. Après la transition consistant en la tentative de faire passer le Dieu local en Dieu universel, Dieu cessa d'être le seul Dieu des Juifs pour devenir le Dieu de tous les peuples. En déclarant « Aimez vos ennemis », Jésus Dieu retirait sa position privilégiée au peuple élu, sa parole valant de ce fait pour tous. De nombreuses et curieuses analogies coexistent entre les textes de Pessoa et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les distinctions entre amis et ennemis, entre extérieur et intérieur, entre hommes et choses, entre hier et aujourd'hui, sont abolies. Quant au sermon sur la montagne et ses paradoxes, il ouvre un champ très vaste dans l'idée du sacrifice de soi. Alors, il parle d'un agneau de Dieu. On peut l'exprimer différemment du fait que plus personne ne partage, ne différencie, ne menace, ne confirme, ne récompense, ne châtie. Alors que dans l'Ancien Testament, on peut encore dire Judicam Deus et discerne causa mea decante non sancta ab omine inigo et doloso erueme. Alors, je traduis, jugez-moi, mon Dieu, séparez ma cause de celle des impies, de l'homme injuste et trompeur, délivrez-moi. On lit dans le Nouveau Testament, le Seigneur fait se lever le soleil au-dessus de ce qui est juste et injuste. La différence est donc très grande entre les deux testaments. Dans le Nouveau Testament, la transition représente un passage dynamique qui lance des défis tant à la société qu'au monde politique, alors que chez Pessoa, les passages sont figés, comme atrophiés, ils ont cessé d'être. Le passage d'un Dieu exclusif à un Dieu généraliste rend sa parole divine et ses actes plus difficiles à percevoir du fait de son élargissement qui tend vers l'abstraction ou de la diversité de ses alliances avec les peuples. De fait, avec ce nouveau Dieu, le soleil brille indifféremment sur la justice ou, sur la justice ou l'injustice, et le vent souffle là où bon lui semble. Dieu s'est auto-éliminé, non pas par dégoût de la vie, mais parce que les Écritures s'accomplissent. Il n'est plus le Dieu vengeur, il apparaît en agneau de Dieu. Et dès lors, la confiance que l'on a en lui s'estompe. On n'envisage plus qu'il puisse combattre la juste cause. Qui est ce Dieu paradoxal qui, après s'être tué, laisse un curieux vide derrière lui? Le Messie ne viendra pas et la rédemption sera différée à un nouveau abstrait intellectuel. Revenons à Pessoa, je cite. Je vis alors une période qui précède la mienne et le plaisir de me sentir contemporain de Cesario Verdes et de porter en moi non seulement d'autres vers que le sien, mais aussi la matière qui leur a donné naissance. Tout cela arrive et rien ne me parle, tout est étranger à mon destin et même le destin lui-même est en conscience. Malédiction, sans aucun sens ni raison, comme si le hasard jetait des pierres. L'écho de voix inconnues, la Macédoine collective de la vie. Que vient donc faire ici Pessoa, me direz-vous? Hormis le fait que l'on peut, par mille raisons, citer Pessoa ou le consulter à loisir, ce passage m'a particulièrement intéressé. En premier lieu, parce qu'il est le contemporain d'un poète de son temps, Cesario Verdes, à travers les yeux duquel il vit le temps. De son côté, Jésus accomplit des écritures qui ont été rédigées à divers moments avant sa venue sur terre. Ces actes ont été prévus depuis des siècles, tout comme chez Pessoa, qui se réfère à ce qui l'a précédé. Il se peut même qu'il s'y identifie et, tel un matériau, se coule dans le moule de l'écriture, devenant la transition entre le verbe et la chair, entre l'abstraction et la matérialisation. Chez Pessoa, il ne s'agit pas uniquement du passage d'un poète à un autre, mais du passage de la vie à l'art, car il n'est pas que le poète qui l'a précédé, il est aussi ce dont il est fait. Il se trouve ainsi aux deux extrémités de la corde. Ce qui m'a plus surpris dans ce passage du livre de l'intranquillité, c'est que la transition se passe de la chose à l'humain. Nous nous sommes souvent posé la question de savoir comment la vie était née de l'anorganique, par où passait la frontière de l'un à l'autre, sans compter les suppositions d'une éventuelle vie sur une autre planète. Écoutons Pessoa. Il n'y a guère de différence entre moi et les rues. Hormis le fait qu'elles soient rues et moi âme, ce qui, attendu la nature des choses, est peut-être anodin. Les choses sont ainsi faites qu'elles se sont plus substantiellement si différentes des hommes. Encore Pessoa, il y a un même destin, puisqu'il est abstrait, pour les hommes et les choses. Pessoa abolit les passages, les deux entités sont comprises dans la même définition. J'ai exprimé déjà cette idée lors d'une discussion avec Beuys et Kounelis à Bâle dans les années 80, où j'interpellais Beuys sur son anthropocentrisme en lui demandant d'où lui venait la conviction que l'homme était le centre du monde. En effet, pourquoi ne serait-ce pas un rocher vivant à l'instar de l'homme ? Un autre passage qui exprime la différence abolie entre l'extérieur et l'intérieur chez Pessoa, c'est ça, la mère conscience que tout est un sentiment qui m'est propre en même temps que c'est l'extérieur à moi et que je n'ai pas le pouvoir de transformer les choses. Ses rêves semblent se dérouler hors de son corps comme un tramway tournant au coin d'une rue. Alors, nous avons vu les connotations entre art et évolution, le passage d'un état à l'autre. Je vais tenter de vous démontrer de manière explicite comment certains matériaux que j'emploie dans mon travail évoquent de manière directe la notion d'évolution de passage. Lorsque je suis en présence de certaines matières, certaines substances, il m'arrive de porter sur elles un autre regard, de les transcender ou de les spiritualiser, peu importe le terme, je les extirpe de leur acception. Cela s'est produit avec le plomb, quand j'ai découvert, il y a fort longtemps, les canalisations en plomb d'une ancienne maison et que j'ai alors ressenti un véritable choc. Présence de cette manière qui est comme si quelque chose y était contenu, une chose qui ne serait pas encore donnée à voir. Cette apparition, mon attirance soudaine pour cette substance m'était impossible à verbaliser. Mais une chose étant certaine, j'étais en présence d'un matériau qui me semblait dépasser les limites infranchissables de notre réalité. Dépasser n'est pas le mot juste parce que trop matériel, trop mécanique, j'évoquerai davantage un sentiment encore inconnu, susceptible d'ébranler nos certitudes dans les domaines de la connaissance. En y réfléchissant, je constatais que je n'étais pas seul à m'intéresser au plomb, mais que les alchimistes, les rosicruciens, s'en était épris avant moi, sans compter les artistes florentins du Quattrocento sous le signe de Saturne et de la mélancolie. En représentant le premier stade de la transformation des métaux en or, le plomb peut prétendre symboliser le développement, l'évolution. Bien que très lourd, il n'est pas rigide, morbido, on dit en italien. Il se situe au début de la transsubstantiation et le fait qu'il se liquéfie à faible température vient confirmer cette appréciation. Il me semble avoir possédé ce savoir sur ce métal avant même de m'être intéressé aux sciences et à la littérature spécialisée. Il ne s'agit donc pas chez moi d'un savoir acquis. Le plomb est une substance qui, pour je ne sais quelle raison inexplicable, recèle une étincelle de lumière, une étincelle qui semble appartenir à un autre monde, un monde qui nous est inaccessible. De même que, lorsqu'enfant, j'ai entendu pour la première fois la légende du Graal à la radio et que je fus ainsi d'une inexcentible nostalgie à la découverte de ces terres lointaines et magiques, j'ai eu la même émotion à la vue du plomb et des étincelles de lumière qu'il contenait. Le gnostique Valentinus recourt à une étrange métaphore pour exprimer la fin du monde. Il évoque une roue à godet qui recueille les étincelles de lumière tombées dans la matière, parvenant ainsi à séparer les deux domaines, c'est-à-dire ce que la terre se remétamorphose en désert, en un vide. Appliqué à notre sujet, l'évolution et l'art, cela signifierait qu'il met un terme à l'évolution inhérente au monde, comme il convient à un gnostique ou aussi à un manichéen, à savoir penser que la transcendance n'est pas abolie par la conscience de la vérité, mais qu'il y a séparation radicale entre la lumière et l'obscurité. Chez lui, le plomb devient mat et lourd du fait que les étincelles de lumière, les souvenirs, lui ont été arrachés pour circuler dans l'au-delà. Il serait intéressant de comparer cette image au mythe de la chute des anges et de constater l'inversion des directions. Lors de la chute des anges, rebelles, on a un brusque mouvement descendant alors que chez le voleur d'étincelles de lumière de Valentinus, on observe un mouvement ascendant constant. Dans l'un comme dans l'autre, on assiste à l'apocalypse. Or, ces deux mouvements ne font qu'un, tout comme chez Faust, quand il descend voir les mers et que l'on peut lire « Steigen, steigen, sinken nieder ». Alors, quand on le transmet, ça veut dire « en montant, tu redescends ». C'est une vitrine avec ce titre. Alors, les tournesols sont suspendus à l'envers. Aussi, un autre matériau synonyme de métabolisme, la paille qui se transforme en engrais dans l'étable. La paille représente pour moi non seulement la blondeur de Margaret, mais aussi l'effervescence de la transformation. D'abord rigide, la paille s'amollit dans la materia prima et, une fois mélangée aux excréments des animaux, la couleur éblouissante de la paille devient d'une manière obscure, prête à être reçue par la terre. En travaillant à mes tableaux, j'ai souvent mélangé à la paille lumineuse les couleurs de la terre. Le sable, au même titre que le plomb ou la paille, possède pour moi les mêmes qualités de matériaux transitionnels. Le sable a représenté pour moi bien plus qu'un simple matériau. Autre symbole de l'idée de passage, le sable n'est pas lui cosmique, mais géologique. En se promenant sur la plage et en y observant le mouvement des masses de sable qui se déplacent selon les marées, on ne peut s'empêcher de penser aux massifs montagneux, apparemment immuables, qui, au cours de l'histoire terrestre, ont été transformés, nivellés, érodés. Aux alluvions, qui les ont charriés jusqu'à la mer où ils se sont enfoncés pour mieux renaître en de nouvelles chaînes montagneuses. Je me suis intéressé au sable de manière très directe lorsque j'ai vu, par exemple, dans le sable des marches de Brandenburg, une allusion aux provinces allemandes qui s'étendaient par-delà la frontière, au-delà le rideau de fer. Ce fut de l'ordre du pressentiment. Je percevais une sorte de valeur ajustée dans le simple sable, à savoir une référence à des pays lointains, puisque j'affirmais qu'ils agissaient du sable des marches de Brandenburg, territoire inaccessible qui s'étendait au-delà du rideau de fer. J'ai lu que le pape Jean-Paul II portait en permanence dans sa ceinture un peu de terre de sa Pologne natale, fétiche qui, chez moi, s'exprime à travers le sable comme dans les tableaux Märkischer Sand. Du fait que ses frontières n'ont pas cessé de se déplacer au cours de son histoire, la Pologne représente pour moi la métamorphose même du passage. Jusqu'à son hymne national, qui fut composé alors que le territoire de la nation polonaise n'existait pas. Mais ceci déborde sur le thème des frontières qui pourrait donner lieu à un autre cours. Merci.